Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafute. Je suis ravi de vous retrouver avec un peu cette voix rocailleuse, mais toujours en très bonne compagnie. Salut Arnaud Berdelet.
Salut Raph, merci encore de m'accueillir dans Poulain Rafute. Vous le savez, hein, Poulain Rafute, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. C'est celui que vous pouvez retrouver un petit peu partout, dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout et même jusque dans nos plus vastes campagnes. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour. Un invité du jour avec qui tu partages une certaine sensibilité, tu vas nous en parler.
Oui Arnaud, on se souvient tous de cette citation du publicitaire Jacques Séguéla, « Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie ». Une sortie médiatique qui avait fait pas mal de bruit et qui montre un peu l'image que l'on peut se faire et que l'on peut fantasmer d'une réussite professionnelle. Force est de constater qu'aujourd'hui, si on n'a pas la belle bagnole, la belle maison, la gueule de l'emploi, le bon costard, on a loupé quelque chose. La culture de l'avoir plutôt que l'être. Après tout, c'est légitime de courir après des formes extérieures de richesse. On nous a vendu que la réussite depuis des décennies devait être « avoir pour faire pour exister » plutôt qu'être pour faire pour avoir. Mais on se rend compte, grâce à des témoignages, grâce à des chemins de vie différents et inspirants, que la réussite humaine n'est pas toujours celle qu'on a bien voulu nous vendre. Adrien Pélissier est talonneur de l'ASM, a un parcours particulier à bien des égards. Formé à l'Union Sportive Aurillacois, puis à Bordeaux, qu'il atteint le top 14 en 2017. Il y connaît ses premières sélections en équipe de France et il signe à l'ASM en 2020. Joueur besogneux, puissant, rapide, c'est le prototype du talonneur moderne, mais au-delà du très bon joueur qu'il est, c'est une de ses paroles, moi, qui me vient à l'esprit. Si je ne retourne pas à la ferme, j'aurais raté ma vie. Cette ferme, c'est la ferme familiale située à Sepfonds, plus précisément à Gaec de Baravès. Ça ne s'invente pas. Alors où on s'imagine que tout joueur rêve exclusivement de devenir rugbyman professionnel et d'en vivre, il est bon de voir que certains ont d'autres passions, d'autres envies et aspirent aux choses simples. Et attention, quand je dis simple, ça ne veut pas dire facile. À 30 ans, Adrien a décidé de retourner à l'école pour anticiper son avenir et garder les pieds sur terre et dans la terre. Exercice compliqué quand on est impliqué à 100% dans sa vie de sportif de haut niveau que de cumuler vie professionnelle et formation en parallèle. À 31 ans, Adrien a un double challenge, réussir sa vie de rugbyman et sa vie d'homme. Comme quoi, une réussite professionnelle n'est pas toujours celle que l'on croit. Je suis ravi de pouvoir échanger aujourd'hui avec Adrien Pélissier pour qu'il nous parle de son rugby, de l'ASM, de son double projet à 31 ans. Bienvenue dans Poulain Rafute, Adrien. Salut.
Merci. Bonjour à tout le monde. Merci de me recevoir.
Merci Adrien d'avoir accepté cette invitation. Tu l'as compris, on va parler de plein de sujets avec toi parce que tu as un parcours quand même relativement atypique. Hein. Raphaël l'a rappelé, tu as été repéré alors que tu évoluais à Aurillac en Pro D2. Ouais. Et puis, en quelques temps, tout a explosé. Tu as découvert l'équipe de France, tu es parti en tournée en Nouvelle-Zélande, tu as affronté à deux reprises les All Blacks. Avant de débuter, j'ai envie de savoir, à 30 ans, voilà, on a l'âge de la maturité. Quand tu regardes un petit peu dans le rétroviseur, qu'est-ce que ça t'inspire, ce parcours, Adrien ?
Moi, je n'étais pas prédestiné à être rugbyman professionnel, loin de là. Mais je me dis que c'est bizarre parce que j'y réfléchis pas trop, j'y pense pas trop. Maintenant, quand je vois aujourd'hui mon parcours, je me dis que c'est chouette, que j'aurais vécu des choses, qu'il y a plein de gens qui auraient aimé vivre ce genre de moment, que j'étais un privilégié, mais que c'est pas fini et que je vais tout donner durant ces 4-5 dernières années là pour en vivre le maximum et puis après partir sur un autre projet.
C'est quelque chose, quand on arrive tout en haut, qui n'est pas simple à gérer, j'imagine. Et c'est une question que je vous pose à tous les deux, Raphaël, parce que tu as connu ça aussi, comme tu le rappelles souvent, tu es arrivé de ta Picardie natale à l'époque au Stade français, le strass, les paillettes, les calendriers et tout ça. C'est pas facile à gérer quand on arrive tout en haut. Adrien, quand tu arrives en équipe de France, j'imagine que c'est un monde que tu découvres aussi également, non ?
Bah, moi, oui, complètement. Surtout que c'est allé très très vite. En l'espace d'un an, je suis sorti de Pro D2 et un an après, j'étais même pas 6 mois après, j'étais au tournoi destination à Paris. Donc, j'ai bon, certes, il y a eu un petit concours de circonstances à des moments, il y a eu des blessures, des choses comme ça, mais c'est la vie de sportif de haut niveau. Des fois, ça réussit à certains, des fois, de moins à d'autres. Donc, ouais, c'est allé très vite, mais bon, il a fallu faire vite. Et puis, aujourd'hui, c'était une expérience magnifique et je suis très fier de l'avoir vécu, quoi.
Ouais, c'est un parcours, comme tu dis, venant de la campagne. Et quand j'en parle, c'est pas du tout péjoratif, parce que moi-même, venant d'un petit village et débarquant dans un milieu où on ne rêvait pas de devenir rugbyman professionnel. Nous, le rugby se découvrait professionnel aussi à l'époque où je suis arrivé au Stade français en 99. Et c'est vrai qu'on débarque dans un monde qui est un peu, et comme je le dis toujours, hein, qui est extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas la vie de tes parents qui sont justement à la ferme. Moi, débarquant avec mon père qui était dessinateur industriel, ma mère était assistante sociale dans un petit village. Et du jour au lendemain, tu débarques alors à Paris. Toi, ça a été Aurillac, puis ensuite ça a été Castres. Et tu es passé aussi par Montauban, si je m'abuse, non?
Ouais, j'ai joué jeune, un peu plus jeune, ouais. Montauban Castres, après Aurillac, où j'ai vraiment joué en professionnel, c'est à Aurillac que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Et après, je suis parti à Bordeaux et à Clermont aujourd'hui.
Donc on découvre en fait un milieu qui est, je vais pas dire déresponsabilisant, hein, loin de là, mais en fait où il y a un cadre
Non, mais.
complètement différent, où on s'entraîne 3 heures voire 4 heures, 4 heures par jour, on joue dans des stades pleins, alors que et ça va peut-être te parler, ça. Moi j'enlevais des betteraves montées pour m'acheter un casque de mobylette à 17 ans en Picardie, tu vois, et du jour au lendemain je joue avec Bibi Radou, avec Domi, avec des mecs en plus que je regardais un peu à la télé. Donc ça. Moi, je te pose la question, comment on vit, je dirais, à la fois la notoriété qui a été fulgurante pour toi, parce que parti d'Aurillac, Castres, et puis derrière cette équipe de France, comment on la vit quand on vient d'un petit village, ou en tout cas d'une petite ville comme toi, qui a vécu une jeunesse, je dirais, dans une liberté, dans les champs, avec les tracteurs, avec les vaches, leurs bouses et tout ça,
Ouais.
quoi. Ça peut paraître très cliché, mais j'ai vécu la même chose, donc c'est
Non,
pas du tout de montrer du doigt, quoi. Comment
bah,
tu l'as
moi,
vécu?
je me suis dit, moi, j'étais à Castres, j'étais en formation, j'avais un professionnel, la porte ne s'ouvrait pas, donc j'ai dit, je vais partir à Aurillac. Et à Aurillac, j'ai commencé vraiment à jouer un petit peu en Pro D2, et c'est là où j'ai commencé vraiment à être professionnel, voilà, mais c'était la Pro D2, c'était pas loin des strass et des paillettes, quoi, c'était la rudesse, un club. Aurillac, où j'ai vécu des saisons magnifiques, mais qui est aujourd'hui se professionnalise de plus en plus, mais c'était pas le professionnalisme que je connais aujourd'hui, forcément. Et après, bon, le réel changement, c'est quand j'ai signé à l'Union Bordeaux-Bègles, où j'ai commencé à vraiment être beaucoup plus médiatisé, forcément. Bon, après, le Graal, ça a été l'équipe de France, forcément, je l'ai vécu. Je sais pas, disons que j'ai des côtés, ça a été des côtés très bons, on va dire, il y a eu des choses énormément positives. Et j'ai connu aussi l'aspect critique, l'aspect, comment expliquer, qui est plus difficile à accepter forcément, parce que vu qu'on était plus médiatisé, ben, il faut savoir s'adapter à cela. Et je pense que j'avais une certaine expérience un petit peu, parce que j'étais pas non plus, j'avais pas 20 ans, quoi, donc ça m'a permis de bien vivre la chose, mais je pense que ça peut être beaucoup plus difficile pour un jeune aujourd'hui qui va être monté très très haut et qui peut être très très vite redescendu il fait des contre-performances, quoi.
Dis-moi si je me trompe, Adrien, mais on a le sentiment que tu es quelqu'un qui a bien les pieds sur terre, comme la dira parfois dans la terre, mais c'était pas un rêve pour toi, j'ai l'impression, d'être rugbyman professionnel. J'ai lu quelques interviews où tu disais, moi, le rugby, c'était mes copains,
Ouais.
voilà, c'était avant tout un art de vivre, entre guillemets, plus
Ouais.
que.
Le rugby, moi, ça a toujours été, voilà, les copains. Après, ça a toujours. Enfin, je sors d'une famille où mes oncles, c'était rugby, voilà. J'allais voir les dimanches mes oncles jouer dans le petit village, tout ça. Mais je me suis jamais dit, je vais devenir professionnel. J'étais à l'école de rugby. Enfin, après, on est parti. Je jouais dans un petit club. Enfin, voilà, j'étais loin de penser tout ça. Après, bon, quand j'ai eu l'opportunité, je me suis dit pourquoi pas essayer d'aller dans un centre de formation et tout. Mais ça s'est décidé sur le tard, quoi. J'ai pas suivi le cursus basique d'un joueur qui va évoluer aujourd'hui. Mais bon, mon parcours est aussi sympathique que d'autres, je pense.
Quand tu dis que tu as découvert des choses désagréables, Raph pourra témoigner également, parce qu'effectivement, les gens ne voient que l'aspect strass et paillettes. Tu parles des critiques, effectivement. En Pro D2, j'imagine que chaque week-end, tu n'es pas noté par 12 journaux différents, 3 télés, 14 radios. C'est sûr que ça ne doit pas être facile à vivre. Est-ce qu'il y a des choses désagréables que tu as découvert? Raph nous parlera aussi de ton expérience. Vous allez confronter un peu vos idées par rapport à ça.
Désagréable, je dirais pas désagréable, mais notamment quand je suis allé en équipe de France, j'ai pas eu beaucoup de sélections. Enfin, j'ai 7 sélections, mais c'est déjà très bien pour moi. Mais je veux dire par là, Tu peux être très haut. Moi, c'était à un an, c'est allé très très vite. J'ai fait ce tournoi en Nouvelle-Zélande qui a scellé ma carrière internationale, malheureusement.
Le premier test avait été difficile, je crois.
Ouais, voilà. Et le matin, quand tu cliques sur ton téléphone, que tu vois ton nom marqué pas au niveau, ça fait mal. Ça fait mal, quoi. T'es très loin de chez toi, t'es tout seul. Enfin, voilà. Donc, ça fait mal à accepter. Après, bon, je me suis relevé. Hein, mais au début, j'avoue que je suis rentré de cette tournée. Ça a été dur mentalement.
Ouais. Ouais, non, moi, je fais juste le parallèle avec moi. J'ai jamais été en équipe de France, mais oui, il y a eu cette. J'en ai encore parlé il y a 2 semaines sur l'image en fait qu'on peut véhiculer. Alors, nous, on n'avait pas encore les réseaux sociaux non plus, mais quand du jour au lendemain, tu es annoncé comme l'espoir du siècle, chose que j'ai été dans les années 2000, au début des années 2000, on va dire, mais de manière éphémère, hein, sur 3-4 mois, on m'appelait le cheval fou, Poulain deviendra-t-il étalon, enfin, tous les jeux de mots à la con sur mon nom de famille aussi. Donc, ça me faisait marrer. Le Lomou blanc. Le Lomou blanc. Lomou, il faisait 118 bars, 1m96, je faisais 1m86. C'est 100 kilos quoi. Tu vois, le mec, tu prenais une Twingo et moi, tu devais prendre un petit scooter électrique. Enfin voilà, la comparaison, elle est à la fois flatteuse, mais après, la chance que j'avais, c'était aussi de jouer avec des mecs qui avaient une notoriété internationale. Je pense vraiment à Domi, qui tu peux pas choper le melon quand Domi te met des grandes nuquettes parce que t'es pas content de ton match. Voilà, il dit, donc c'est délicat parce qu'on t'apprend pas, il n'y a pas d'éducation notoriété, il n'y a pas l'éducation de lire une critique sur soi et c'est un peu le reproche que moi j'ai pu faire quand j'avais 20 ans à des journalistes et heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux parce que sinon avec mon extraversion j'aurais défoncé tout le monde. Mais voilà, on a, moi j'appelle ça l'empathie aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce que le joueur peut vivre aussi, sa contre-performance. Mais après, il faut vendre, donc ce qui fait vendre aussi, c'est les gros titres. Donc ce que tu as dû vivre aussi, Adrien, c'est voilà, la contre-performance. Et c'est délicat, donc il faut arriver à 20 ans, 25 ans à vivre avec tout ça. Moi, ça m'a un petit peu dépassé, j'avoue, en plus à Paris, avec tout ce que vous savez, oui, de la notoriété et tout ça. Donc c'est pas le même contexte, n'ayant pas joué en équipe de France. Mais c'est vrai que t'en prends plein la gueule, il faut avoir le dos rond et puis aussi être bien entouré, je pense.
Bien sûr, après moi, voilà, c'était un peu l'aspect. Tu as des côtés voilà, où j'ai trouvé très bon, dans le sens où ben, quand tu, voilà, tu sors, tu fais des bonnes performances, tout roule, quoi. Mais le jour où tu te plantes, ils ne te loupent pas. Quoi.
Donc, est-ce qu'on est préparé à ça, Adrien, justement?
Je ne pense pas qu'on peut être préparé à ça. Je pense qu'après, c'est une force de caractère de chacun et ça forge un peu aussi. Je pense que tu ne peux pas faire ce. Tu peux pas être amené à être sur le devant de la scène si mentalement, tu n'es pas fort. Aujourd'hui, un joueur qui. Pour moi, hein, c'est mon point de vue forcément, mais qui n'a pas, qui n'est pas capable de prendre un peu de recul et de sur beaucoup de choses qui vont être dites sur lui, notamment aujourd'hui, je pense aux jeunes, dès qu'ils font 2-3 bons matchs, on dit ça va être encore la nouvelle star de l'équipe de France et dès qu'ils se plantent, je vais pas contre les journalistes, loin de là, mais
non, forcément, c'est le jeu.
Et voilà, c'est le jeu. Et donc, je pense que des fois, ben ouais, c'est dur à accepter, mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont de plus en plus mieux préparés pour ce genre de choses.
C'est ce que j'allais te dire, on a l'impression, et Raph, j'aimerais avoir ton sentiment, que toi qui côtoies aussi parfois la nouvelle génération, on a l'impression que cette nouvelle génération, alors qu'on va qualifier de Dupont et Tamac, parce que c'est un peu les têtes d'affiche actuellement du rugby français, ils sont très froids. C'est-à-dire qu'ils ont, quel que soit, alors pour l'instant, on va dire que tout ou presque leur réussit, mais on a le sentiment que même si demain, ça va moins bien, ils sont très froids par rapport à ces critiques. Ils sont nés avec les réseaux sociaux quelque part, ils savent qu'il faut s'en servir, mais en même temps qu'il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. On a le sentiment que ouais, voilà, c'est la première vraie génération professionnelle capable de se détacher de ça. C'est ton sentiment aussi, Adrien ?
À un moment, complètement. Moi, je connais pas. J'ai fait juste des Barbarians avec Romain Tamac et j'avais trouvé que c'était un garçon. Il avait 18 ans, il était là, mais j'étais là. Mais il a une. Enfin, c'est pas un garçon qui va parler beaucoup ou quoi que ce soit, mais il est très. Ils ont la tête sur les épaules. Moi, j'ai connu Mathieu Jalibert à Bordeaux, qui est quand même aujourd'hui aussi le deuxième numéro 10, enfin numéro 10 de l'équipe de France, qui, quand tu es arrivé là, ils ont d'être sûr d'eux, ils sont pas, ils peuvent pas, bon, ben, je dis pas que des fois, ils sont forcément déçus, ils peuvent être un peu trucs, mais aujourd'hui, je trouve qu'ils ont cette force de caractère et cette, je sais pas comment, ouais, comme il a dit, l'empathie, tout simplement, ils arrivent à être loin de tout ça et à la fois se servir de ça pour eux, enfin, ils ont, ouais, ils sont nés avec, quoi, Puis bon, je trouve qu'aujourd'hui, ils ont cette génération, elle a cette force-là qui l'aide vraiment, je pense.
Mais c'est Miguel Fernandez qui est un agent de joueurs, pas agent de joueurs, il représente les joueurs. Et Miguel nous expliquait justement qu'aujourd'hui, il faut faire avec les réseaux sociaux, et je pense que toute la l'environnement, parce que là, on a quand même cité deux des stars internationales du rugby français, trois d'ailleurs, tu citais Jalibert aussi, il y a quand même l'encadrement aussi. On imagine qu'à Bordeaux, voilà, quand il sort un petit peu des clous, il est vite recadré par Marty et puis par Urios aussi. À Toulouse, on sent que le club est quand même très famille, loin de moi l'idée de comparer avec le Stade français où tu es quand même peut-être un petit peu plus exposé, parce que Paris, parce que la nostalgie des années 2000 aussi derrière, et puis les résultats aussi, je veux dire, quand tout fonctionne bien. Voilà, mais derrière, c'est vrai qu'il y a une forme de protection aussi de cette nouvelle génération. Et puis, elle est, comme tu l'as dit, hein, elle est aujourd'hui formatée, Arnaud, elle est formatée à un rugby où l'apparence, en tout cas, je dirais pas le paraître, mais les réseaux sociaux et toute cette image que ça peut véhiculer, voilà, ils sont au courant de ça. Il y a des boîtes aujourd'hui qui font la tournée des clubs aussi et dont les clubs peuvent s'offrir les services qui font de la formation aussi, de la sensibilisation aux réseaux sociaux pour voir à la fois les bons côtés et aussi les mauvais côtés. Arriver aussi à se blinder, comme tu l'as dit, quand tu es touché, tu reviens d'un mauvais match et que tu en prends un peu plein la gueule, il faut arriver à se blinder et regarder devant. Et après, ça dépend aussi de ta force de caractère, tu l'as dit. Je pense que c'est un panel de compétences autour des joueurs et que le joueur doit être le plus tôt possible, et c'est ça qui est difficile, doit être mature aussi le plus tôt possible, à 18, 19, 20 ans. Puis il y a Ntamack, c'est pour ne citer que lui, il y a son papa derrière, qui connaît les rouages du système. Donc voilà, mais... Après, si on fait le parallèle avec un mec comme Kouyou aussi, qui s'est blessé, qui a été monté aussi, qui a été mis sur un piédestal et qui du jour au lendemain s'est blessé et revient, n'est plus trop dans les papiers. Là aussi, t'as l'âge qui avance aussi, 22, 23, 24 ans, le train qui passe. Ça aussi, c'est difficile à gérer. Toi d'ailleurs, comment tu vis l'équipe de France aussi, on voit qu'il y a quand même beaucoup de talonneurs aujourd'hui à ce poste-là. Est-ce que t'espères y retourner ?
Voilà, je peux pas dire qu'aujourd'hui, l'équipe de France, j'y pense tous les jours. Pour moi, il y a des très bons joueurs devant moi. C'est à moi de performer sur le terrain. Et après, il se passera ce qui se passera. Mais c'est pas... comment dire, on ne peut pas dire si un jour je suis appelé à l'équipe de France, je serai le plus heureux, forcément. Mais je suis conscient qu'aujourd'hui, il y a des très bons joueurs à mon poste. Une nouvelle génération qui est arrivée. Et que voilà, là, il y a beaucoup de joueurs. Et donc, il faut être performé avec le club. Et on verra. Mais ce n'est pas quelque chose que je me dis, bon, ben, il faut que je retourne en équipe de France ou quoi que ce soit. Donc voilà, si je suis bon, peut-être. Si je ne suis pas bon, eh bien... Voilà.
Puisqu'on parle de l'équipe de France, Adrien, petite séquence émotion. Tu as eu la chance, alors même si effectivement ça n'a pas été simple sur cette tournée en Nouvelle-Zélande, d'affronter deux fois les All Blacks. Tu te retrouvais deux fois face à un AK dont on dit qu'il est légendaire. Un an plus tôt, tu étais encore au stade Jean-Alric à Aurillac. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'imagine que dans ta tête, il y a eu plein de choses. Non, ces moments, ça a dû être fabuleux à vivre et en même temps. T'as dû te dire, est-ce qu'il y avait un goût de revanche ? Et voilà, dis-nous un peu ce qui s'est passé dans ta tête.
Les All Blacks, c'était, je l'ai vécu comme... ça allait tellement vite que je n'ai pas pris le temps, je pense, d'apprécier le moment parce que, je ne sais pas comment dire, mais je me suis retrouvé là-bas. Moi, c'était inespéré, quoi. Je suis arrivé là, je fais quelques matchs à top 14, deux blessés au talon, appelés en équipe de France. Super, je ne pensais pas jouer, hop, je joue.
Rappelle que tu as battu l'Angleterre quand même, l'histoire.
Ouais, hein, je suis très fier de tout ça. Mais et après, non, les Blacks, c'était un rêve de gosse. Enfin, je ne sais pas, quand tu. C'est des mecs que tu regardes jouer à la télé, tu te dis, mais wow, c'est top. Et tu les joues. Bon, quand tu les joues, c'est moins rigolo, forcément. C'était bien. Ouais, c'était un beau souvenir. Mais rugbystiquement, c'est sûr que ce n'est pas les performances qui m'ont fait aller plus loin dans ma carrière internationale. Mais c'est comme ça.
Mais comment on fait pour passer du stade Jean-Alric au AK ? Raconte-nous en un an.
C'est un an, ouais, c'est ça. On fait qu'on joue, on se pose pas de questions, je pense, et ça se passe bien. Il y a tout, il y a une part de chance, une part de voilà. J'ai fait quelques matchs, ça s'est bien passé avec Bordeaux. Hop, t'es dans les petits papiers, tu sais pas, t'entends des choses. Là. Après, il y a aussi l'aspect que bon, Jacques Brunel a pris l'équipe de France, me connaissait, peut-être ça a joué dans la balance aussi. C'est des choses que je sais pas, donc. Voilà, aujourd'hui, je me suis retrouvé là-bas. Enfin, moi, j'étais le plus heureux. Hein. Et puis, j'ai croqué dedans à fond. Hein. Je suis allé, mais...
Non, mais avant de donner la parole à Raph, toute modestie mise de côté quand même, pour rappeler qu'à l'époque, tu fais partie des meilleurs talonneurs quand même français, qu'effectivement, il y a eu un concours de circonstances avec quelques blessures devant toi à cette période-là. Mais je veux dire, tes performances, aujourd'hui, tu les dois à personne quand même.
Oui, oui, non, mais tout à fait. Après, voilà, moi, je suis un garçon assez modeste et je ne me prends pas trop la tête là-dessus. Mais oui, cette année-là, je pense que la saison 2017-2018, c'est ma meilleure saison rugbystique jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis. Je découvre le top 14, je ne sais pas, ça a été énorme pour moi et c'est vraiment une année qui restera gravée dans ma tête, quoi.
Ah, moi, ça me. En fait, quand tu parles des blagues, moi, ça me fait penser à un truc. Tu dis parler de chance et de malchance. Et moi, tout le monde pense que je me suis blessé par mon hygiène de vie, mais j'ai eu aussi parfois des moments de malchance, notamment les blagues à Marseille en 2000, quoi. Tu vois, je suis aux portes de l'équipe de France. On l'a dit, on parlait des titres un petit peu plus tôt qu'on me mettait sur le coin de la gueule. Et puis, je suis dans mon canapé, en train de regarder une mauvaise télé-réalité, un petit souci à la cheville, mais bon, c'est la tournée de novembre. Je suis dans les 30 de Bernard Laporte, mais bon. Et là, Max Gozzini m'appelle et me dit comment ça va, mon bébé. Je dis, écoute, Max, ça va, j'ai un peu mal à la cheville, mais ça va aller, je suis en rééducation, je serai performant dans 3 semaines. Et il me dit, bah écoute, prends tes affaires, tu vas être remplaçant contre les Blacks à Marseille, il y a un mec qui vient de se blesser. Et là, je saute dans l'appartement, je dis, prends-moi les billets. Et en fait, je fais l'examen quand même avant de partir le lendemain matin. Et en fait, j'ai la cheville, j'avais un petit arrachement osseux. Et j'ai pas pu jouer. Donc, c'est l'anecdote qui fait que ça te reste un petit peu en travers de la tronche. Surtout si l'image derrière, en plus, véhiculée et le bringueur et tout ça. Alors que là, à ce moment-là, j'étais sur cette année comme toi, où j'étais dans ma toute puissance, j'étais dans une belle performance, en plus un club qui brillait. Et j'ai loupé l'une de mes 2-3 sélections que j'aurais dû faire. Et je vous passe les détails de l'appendice. Ici, 3 mois plus tard, où je dois jouer contre l'Italie, et c'est Roro qui, je pense, Rougerie qui joue. Et voilà, ma carrière, je passe un peu à côté de l'équipe de France, mais moi, comme toi, je n'ai pas eu, enfin, à la différence de toi, je n'ai pas eu la chance de jouer sous le maillot bleu et aussi face au. En plus, ils ont gagné, quoi, putain, à Marseille, ils ont gagné les gonzes, quoi. C'était un souvenir un peu douloureux, voilà.
On va passer à la deuxième partie de l'émission, messieurs. Un petit sujet qui tient à cœur à Raph. Je dis petit parce qu'on en parle très, très souvent. Et je crois qu'Adrien, c'est aussi un sujet qui tient à cœur parce qu'à 30 ans, même si c'est l'âge de la maturité, et on dit souvent que les talonneurs sont les meilleurs à cet âge-là, c'est aussi important de préparer l'avenir. Et toi, à 31 ans, tu as décidé de retourner sur les bancs de l'école. Raconte-nous un peu ta démarche.
Alors, ma démarche, elle est qu'aujourd'hui, je suis agriculteur et j'ai toujours été passionné par ce métier-là. L'âge avançant, voilà, je vais avoir 31 ans, je réfléchis un petit peu à qu'est-ce que je vais faire après, même si j'ai toujours su, mais maintenant, il faut vraiment du concret, il faut partir dans un sens, se dire peut-être on va faire ça. Avec le Covid, tout ce qui est arrivé aujourd'hui, je me suis dit, je vais me remettre à l'école pour me préparer parce que j'aimerais bien transformer les produits que fait mon père et mon frère. Je me suis dit, il faut essayer de partir là-dedans, c'est ça. Peut-être ça peut marcher, il faut voilà. Donc, je me suis lancé là dans une formation de transformation de produits laitiers pour le moment. Et donc, voilà, je débute. Ce n'est pas évident, mais bon, c'est cool. Il faut trouver un peu de temps. Il faut se fixer un emploi du temps parce que sinon, forcément, je préfère être plus tranquille à la maison. Mais il faut penser à travailler un petit peu. Ouais.
Tu fais ta formation à Clermont ?
Ouais, je le fais au CFPPA de Marmillat, c'est un petit village à côté de Clermont-Ferrand. Enfin, c'est un lycée agricole. Mmh. Et voilà, bon, après, moi, j'avais déjà fait des études agricoles jeunes, jusqu'au BTS, j'ai un bac plus 2, mais bon, ça fait 10 ans aujourd'hui et il faut que je parte dans autre chose, enfin, dans le sens où il faut que je me remette là-dedans, quoi. Donc, je suis parti là-dedans, je repars petit à petit et je me dis, cette année, je fais ça. Si l'année prochaine, j'ai trouvé un truc qui me plaît d'autre, peut-être je tenterai autre chose, on verra, il faut que je. Petit à petit, quoi.
L'idée, c'est de repartir dans la ferme familiale, de bosser avec ton frère et ton père.
Totalement, ouais. Mon père, il arrive à la retraite, il en a marre, il lui tarde que j'arrête le rugby, mais bon, moi, il me tarde pas d'arrêter, donc je continue un petit peu. Mais, moi, complètement, c'est rentrer sur l'exploitation familiale pour travailler avec mon frère et développer quelque chose. Bon, on n'a pas trop d'idées vraiment claires encore, mais c'est en cours.
Bon, un petit mot quand même, on est obligé de te poser la question, mais à 30 piges, ça fait quoi de te retrouver sur les bancs du lycée là?
Bah, c'est pas évident, hein. Mais après, j'ai de la chance que le prof, il nous fait vachement de trucs aménagés. Enfin, il nous envoie tous les cours par ordinateur et tout. Moi, j'y vais de temps en temps à l'école, mais il n'y a pas les élèves. Donc, si vraiment il fallait que je sois à côté dans la classe, des fois, les jours de repos, ce serait autre chose parce que le temps de s'y remettre et tout, c'est pas évident. Même là, les cours par ordi, c'est pas évident parce qu'il faut prendre des notes. Voilà, tu as l'impression que tu as bossé, mais s'il faut, tu n'as rien retenu. Donc, il faut s'organiser, c'est pas évident.
Il y a des stages ou pas? Vous faites des stages?
Oui, ouais. À partir de, je pense, d'ici un mois, là, je vais aller tous les jours de repos chez un maître de stage pour apprendre à faire des yaourts, travailler avec lui un petit peu, voir comment ça se passe, voir comment il commercialise, tout ça. Donc, c'est bien. Moi, ça m'intéresse, l'ouverture d'esprit, j'aime bien faire ça. Il me tarde limite d'aller en stage. Mais avant le stage, il faut que je fasse les cours. Alors, bon.
Raph, dis-moi ce que tu en penses, mais à 30 ans, retourner sur les bancs du lycée, entre guillemets, et avoir ce courage-là, c'est quand même, Chapeau, non?
Non, chapeau. Moi, je l'ai. Alors, je ne vais parler que de mon expérience, mais j'arrête le rugby. Bon, tu le sais, vous le savez, à 28 ans, mais en arrêtant à 25 ans au Stade Français, j'avais repris une année. En fait, j'ai repris des cours au laboratoire de l'acteur pour être comédien. C'est complètement différent. Hein. T'as pas les mains dans le cambouis, mais tu repars dans quelque chose en fait. Et c'est là où ça demande, bah, comme l'a dit Adrien, une certaine remise en question quand même sur tout ce que t'as vécu avant. Moi, j'avais pas encore digéré la fin de mon rugby que je partais sur une formation pour aller vivre une autre aventure. Mais le faire pendant ta carrière, c'est tout ce qu'on dit déjà depuis des années dans Poulain Rafut, et c'est le boulot aussi de Proval, de faire de la prévention et de dire que ça existe, qu'il est important de penser au double projet. Mais ce qu'il faut se dire, et les gens ne s'en rendent pas compte, c'est que tu as déjà une vie professionnelle. Ce qui est dur en fait pour les gosses aujourd'hui, c'est à 16, 17, 18 ans, tu rêves parce que la gamelle a l'air bonne et qu'en plus de jouer au rugby et devenir professionnel, c'est super, mais qu'on te demande même à 18, 19 ans de réfléchir à ton double projet, de savoir si ça ne fonctionne pas, ce que tu vas faire de ta vie. Déjà, en temps normal, c'est hyper compliqué, mais là, tu rêves de quelque chose, on te dit que ça peut ne pas aboutir, donc il faut que tu penses à ton double projet, et surtout à un métier, si ta carrière est lancée, auquel tu vas penser dans 10-15 ans. Et ce qui est génial avec Adrien, c'est qu'il sait ce qu'il veut faire. Et c'est ça qui est assez exceptionnel. C'est pour ça qu'il faut pousser aussi les jeunes et ceux qui sont aussi en carrière à écouter ce genre de podcast, à écouter la parole d'Adrien, parce qu'il est important d'essayer de trouver ce qui nous fait vibrer. Et ce qui nous fait vibrer après le rugby, c'est difficile de trouver. Et juste pour conclure, ce qui est difficile, et aujourd'hui on te prône sur les réseaux sociaux, vide tes rêves. Mais vide tes rêves, il faut savoir ce que tu as envie de faire aussi, il faut savoir, tu vas pas vivre de ton rêve de gosse, de ce que tu voulais faire à 5-6 ans, à part des exceptions comme Adrien. Donc il faut arriver à trouver, ça demande une réflexion, ça demande d'échanger aussi avec les gens qui sont dans la vie normale pour voir un peu ce qu'il est possible de faire. Donc il faut pousser tous les jeunes et tous les joueurs aujourd'hui actuels à se renseigner. Il y a Jessie Trémoulière aussi qui le fait, qui est dans la région et qui est aussi agricultrice. Donc comme quoi c'est sûrement un métier, je suis persuadé moi que c'est un métier d'avenir. L'agriculteur, c'est un métier d'avenir et ça va bien, ça colle bien au rugbyman, je trouve, encore.
Pour rebondir là-dessus, après, moi, ce qui m'a fait aussi faire ça, c'est que voilà, je suis passé par la case pour D2, le SP Aurillac, j'étais professionnel, mais pas avec le salaire que j'ai aujourd'hui, forcément. Et quand tu fais ça, tu te dis, ben, même si j'avais joué 10 ans à Aurillac, exemple, tu n'as pas l'assise, tu peux, enfin, tout simplement, tu n'as pas l'assise financière que même un jeune va avoir dans un club professionnel. Hein. Donc, je pense que c'est important aujourd'hui de... Après, les jeunes, ils sont aujourd'hui conscients de ça, mais attention, parce que voilà, tous les mois, ben, tu as ta paye. Quand tu commences à t'entraîner avec les pros, tout ça, tu vas vite gagner plus d'argent que quelqu'un qui travaille dans un emploi basique en France. Tu te dis, ouais, ça, tout va bien. Et si le jour, ben, ça ne va plus, attention. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours été sensibilisé là-dessus. Après, je ne dis pas que, attention, hein, vraiment pour moi, ça a été toujours très important et surtout pouvoir me dire mentalement, me lancer dans quelque chose d'autre parce que moi, je suis un garçon qui a besoin de bouger, de faire des choses et si moi, je ne peux pas rester toute la journée sur le canapé, ça va pas, ça va un jour, mais pas deux. Quoi, donc,
Je l'ai vécu et je l'ai vécu et c'est ça qui est délicat aussi, c'est qu'on dit, bah ouais, on part, moi, je touchais 8-9 000 balles à la fin de ma carrière, on va dire à 25 ans, c'est avant que les salaires vraiment n'explosent, mais c'est déjà une énorme somme. Et du jour au lendemain, j'ai eu la chance d'avoir le chômage aussi, mais je me suis retrouvé à RSA. Avec le RSA, après, j'ai pu rebondir sur des activités. Je me le suis pelé. Mais comme tu dis, d'avoir quelque chose qui te tient vulgairement les couilles, c'est-à-dire de savoir pourquoi tu te lèves aussi le matin. Rester sur le canapé, ça va 15 jours, 3 semaines. Et une discussion que j'ai avec ma meilleure amie, qui est responsable d'un centre de formation à Argenteuil, elle me dit, je rêve d'avoir ta vie. Au moment où j'étais un peu au fond de la gamelle et dans mon canapé. Et moi, je lui disais, mais je rêve d'avoir la tienne. C'est-à-dire de savoir pourquoi tu te lèves. Elle est éducatrice, enfin voilà, elle a un vrai boulot. Et de savoir que tu as un cadre aussi, pourquoi tu te lèves le matin, ça donne un sens aussi à ta vie, autre que de te retrouver sur le canapé avec la PlayStation. Et ça dure 15 jours, 3 semaines. Au bout de 3 semaines, tu te retournes, tu n'as plus les potes, tu n'as plus tout ça, tu n'as plus la vie sociale, il faut te recréer derrière. Donc au-delà du salaire, je pense que c'est important parce que ça donne un sens. Ce qui est délicat, c'est d'arriver à, si tu as un ego surdimensionné comme moi je l'avais aussi, c'est de te rabaisser un peu, ou je dirais de prendre de la hauteur et dire vas-y, va retourner dans la vie normale, va découvrir ce qu'est la vie normale, va découvrir ce que c'est le mot travail. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'on dit toujours que les rugbymen, à la fin du truc, la fin des matchs, ils disent, on va se remettre au travail. Oui, c'est un travail. Mais ça reste quelque chose aussi d'extraordinaire et de privilégié par rapport au commun des mortels qui se lèvent pour 10 fois moins et qui vont à l'usine pour caricaturer un petit peu, quoi.
Voilà. Alors justement, puisque t'en parles, j'avais pas prévu de te poser la question, Adrien, mais les gens ont souvent, dans l'imaginaire, on se dit, voilà, les rugbymen, aujourd'hui, c'est comme les footballeurs, ils gagnent beaucoup d'argent et tout ça. Et je crois que les gens n'ont pas pleinement conscience de ce que ça représente d'être rugbyman professionnel en Pro D2. Tu l'as bien connu, Aurélien. Tu pourrais nous donner une fourchette de salaire qui, par exemple, existe en Pro D2?
Non, mais moi, quand j'ai commencé à Aurillac, j'étais pas professionnel. J'ai fait la première année, je crois, j'ai fait 17 ou 18 matchs en Pro D2. Et j'étais surveillant la nuit. Hein. Je gardais des élèves dans un lycée le soir, trois nuits par semaine. Ça me faisait un complément de salaire. Et je gagnais à l'époque, je crois, j'avais 500 euros par mois du club. Et mon salaire
Surveillant.
de surveillant, trois nuits par semaine, c'était 800. Et après, j'avais 100 euros par match en première, un truc comme ça, ou quelque chose, quoi. Un truc. Donc, c'est vraiment. Après, je suis passé professionnel, mais le SMIC en Pro D2, il est à 1600 euros net. Donc attention, tu signes. Puis au début, même si tu joues, tu es content de signer. Bon, mais tu as signé à 2000 euros, entre deux, voilà, les gros salaires, moi, rien. Après, je sais pas ce que ça en est aujourd'hui, c'était 5000 euros, quoi. Alors, c'est un beau salaire, mais attention.
Il
Hein,
faut prévoir une reconversion.
bah, bien sûr, tu peux pas, même si tu gagnes 10 ans, 5000 euros, tu peux pas, tu peux te mettre un petit peu d'argent de côté et préparer ton truc. Après, tout dépend du train de vie que tu as aussi. Voilà, c'est. Chacun fait comme il le sent, comme il a envie. Voilà, aujourd'hui, bon, voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, entre 14 et les jeunes, ils vont vite gagner 3 000-4 000 euros par mois. Voilà, tu n'as pas fait grand-chose, mais tu gagnes déjà pas mal d'argent. Ça peut aller, si tu commences à jouer, attention, ça va vite. Et voilà, donc il faut.
Mais chacun à votre échelle, messieurs, est-ce que vous êtes inquiet justement de voir peut-être certains jeunes aujourd'hui qui ont des salaires qui peuvent aller de 10 à 20, 30, 40 000 euros pour certains, ne pas anticiper l'après-rugby parce que même quand bien même on gagne 20 000 euros par mois pendant quelques années, la carrière d'abord est très courte et souvent vous dites, vous les joueurs professionnels, que bah, c'est de plus en plus court ces carrières, mais ça ne permet pas d'assurer derrière une vie confortable et aisée sans avoir à anticiper une reconversion.
Je pense qu'on en voit de moins en moins, mais que ce soit dans le basket, dans le foot, dans le rugby, dans le hand, dans tous les sports où tu commences à gagner de l'oseille. Alors le foot, c'est stratosphérique. En NBA, même dans la NFL, tu as 50% des joueurs qui deviennent et qui sont
Là,
ruinés
c'est
à
pas
la
les
fin
mêmes
de leur.
milieux, là. Ouais.
Non, non, c'est pas les mêmes milieux. On parle du monde du
Pas la même
sport, en
sphère
fait.
économique.
Mais c'est pas la même chose. Sauf que tu vis dans un laps de temps entre 18 et 35 ans, si encore tu fais cette carrière-là, où tu vas pouvoir engranger de l'argent, beaucoup d'argent pour certains sports et peut-être un peu moins. Et dans le rugby, c'est ça. C'est qu'après, derrière, une fois de plus, peut arriver, c'est pour ça que je prône de parler de la petite mort du sportif, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais de ta vie, qu'est-ce que tu fais de ton corps, de tes émotions, qu'est-ce que tu fais de ton mental, qui croit en toi, en quoi tu crois, qu'est-ce que tu fais de ton pognon, comment tu le places, c'est là où tu as des crevards qui arrivent aussi derrière et qui peuvent t'arnaquer. Et ça arrive beaucoup dans le milieu du sport et dans le milieu du rugby. Moi, ça m'est arrivé, fut un temps. J'en ai tiré des leçons, mais j'en ai 40, j'ai 41 ans. C'est pour ça que la prévention, elle est essentielle de dire aussi, mettez de côté, prévoyez pour l'après. Et c'est d'ailleurs, voilà, il y a des boîtes autour de Proval, justement, qui aident à cette prévention, mais la prévention paye pas. Donc, et puis, quand tu as 20 ans, tu n'as pas envie d'entendre ce discours-là, parce que tu sais que tu es dans la toute-puissance, tu te dis, mais de toute façon, je gérerai, c'est dans 10 ans, dans 15 ans. Moi, ma carrière s'est arrêtée à 25 ans. Une main devant, une main derrière, j'ai failli devenir Clodo. Mais je m'en suis sorti et j'en parle avec la banane, parce que si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas là aujourd'hui à en parler. Mais tu en as d'autres qui ont plongé et qui ne sont jamais revenus, et on les connaît. Et il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Donc, c'est important d'en parler, parce que oui, ça fait rêver, mais comme le dit Adrien, ça peut s'arrêter du jour au lendemain.
T'es inquiet, toi, Adrien, de certains comportements, peut-être, dans le milieu professionnel aujourd'hui?
Après, aujourd'hui, concrètement, pour moi, tu as les top joueurs qui vont gagner très vite beaucoup d'argent, qui, je pense, déjà, ils ont la tête sur les épaules. Et ils vont, si eux, ils sont malins, ils font 10 ans, les salaires qu'on entend aujourd'hui, tu peux te mettre bien. Après, tu as l'autre partie de l'hémisphère, on va dire, où là, attention. Tu peux avoir un bon contrat et tout, mais pas préparer, commencer à claquer, partir en vacances. Parce que c'est vrai, c'est facile hein, aujourd'hui. Hop, tu vas sur Internet, tu prends des billets, bam, tu craques 5, 6, 7 000 euros, bam, tu pars en vacances, tu te régales. Tu fais ci, tu achètes, hop, tu prends une belle maison. Mais quand ça s'arrête, si tu n'es pas préparé à tout ça, c'est très difficile. Et je trouve que le boulot de Proval est bon, même si voilà, tout le monde n'adhère pas et c'est pas. Voilà, mais il faut pour moi préparer les jeunes à plein de choses comme ça parce que. Une mauvaise blessure, arrêt de carrière. Moi, je joue première ligne. Hop, on te trouve une mauvaise hernie, c'est fini. Hein. C'est
Tu
fini.
l'as
Tu,
vécu
tu,
d'ailleurs
euh,
l'année dernière, t'as
j'ai
dû.
vécu, ouais, j'ai eu, bon, j'ai été opéré. Bon, là, c'est reparti. Tout va bien, donc tant mieux, je touche du bois. Mais voilà, bon, j'ai 31 ans. Ça me serait arrivé à 22, 23 ans. Disons que tu achètes ton premier appart, tu commences à vivre un peu, bam, mais tout qui s'arrête. Attention. Non, mais après, les jeunes aujourd'hui, je pense qu'il y a même qui sont encadrés, les centres de formation, il y a des règles et tout. Donc, Moi, je ne suis pas forcément inquiet parce que je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens et loin de là. Hein. Mais moi, je pense qu'il faut rester vigilant sur tout ça parce que ce n'est pas le foot. Et on le sait tous, quand ça s'arrête, même je pense que beaucoup de joueurs aujourd'hui ne te le diront pas, mais quand ils arrêtent, tu crois que tu en as mis un peu de côté et tout, mais c'est plus pareil, quoi. Donc voilà, il faut être vigilant.
Tu as les impôts qui ne te suivent plus, tu vois, sur l'année d'après, donc c'est là où tu te fais trépaner. Hop, voilà. Tu te fais couper un rouleau, là, pam.
Voilà. Voilà.
Je ne sais pas ce que tu en penses, Raph, mais c'est vrai que le discours est très, très, très cartésien, très, très rafraîchissant, quelque part, aussi, d'entendre ce genre de propos de la part d'un rugbyman professionnel. Est-ce que, dis-moi ce que tu en penses, Adrien, est-ce que finalement, ce n'est pas aussi ton parcours un peu atypique qui te permet aujourd'hui d'avoir les pieds sur terre? Parce que j'imagine que le salaire aujourd'hui que tu as, clairement, je ne te demande pas de le révéler, attention, mais est diamétralement différent de ce que tu as connu lorsque tu étais surveillant à Aurillac. Mais j'imagine que de par ton parcours, effectivement, tu n'es pas le genre de mec qui, tous les mois, va claquer 5000 balles pour partir à Ibiza sur un week-end ou un truc comme ça.
Non, je ne suis pas comme ça. Ma copine me le reproche des fois, d'ailleurs. Mais non, non, forcément, je ne sais pas si c'est mon parcours ou mon éducation. Après, je, voilà, comme je dis, je ne suis pas là pour donner des leçons, et loin de là. Mais aujourd'hui... Ouais, comme j'ai connu la Pro D2, où ça a été mon premier contrat à Aurillac, je gagnais 2000 euros par mois. Hein, donc, à 2000 euros par mois, tu peux pas faire. Bon, je vivais à Aurillac. Donc, à Aurillac, tu as 2000 euros par mois, tu vis bien quand même. Hein. Tu n'as pas un château, mais tu vis bien. Je veux dire, aujourd'hui, voilà, si j'avais fait toute ma carrière en Pro D2, tu réfléchis pas pareil, je pense. Mais si tu signes, mettons, un bon contrat en top 14, ça marche pas. Et tu te retrouves du jour au lendemain où les jeunes aujourd'hui, ils gagnent vite plus d'argent qu'un mec qui est confirmé en Pro D2 des fois. Hein. Et finalement, hop, ça se retrouve, le coach change, tu joues moins, bam, 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 tu te retrouves en Pro D2. Il suffit que tu aies mal investi ou que tu aies placé l'argent avec un mec qui t'a pris pour un pigeon. Parce que ça va vite aujourd'hui. Hein. Ouais, ben, vas-y, mets l'argent là, t'inquiète, je te le gère. Et tu te réveilles, oh, c'est trop tard. Et attention, donc c'est là-dessus que je pense qu'il faut être... Mais aujourd'hui, les jeunes qui arrivent, je les trouve, ils sont assez formatés maintenant. Ils sont très réseaux sociaux, très tout ça. Et ils ont raison de vivre avec leur temps aussi. Je vais pas leur... Parce que bon, maintenant, je sais pas que je fais le vieux, mais je suis pas très bon avec le téléphone et tout ça.
Non, mais c'est ce que tu dis et ton discours. Moi, je commence à être un vieux con. J'en ai 41, donc je commence à être un vieux con. Et mon discours s'épuise aussi un petit peu. Mais de l'entendre de la part d'un mec qui a 31 ans et qui a ce discours posé, tu l'as répété deux, trois fois, tu as peur d'être donneur de leçons. Pas du tout. Mais quand on voit ton parcours, qui, comme je le disais dans l'introduction, est inspirant, derrière, tu as plus d'impact en fait qu'un mec comme moi ou qu'un mec de 60 piges qui va venir te parler de la vie, quoi. Toi, tu l'as vécu.
C'est important, ce genre de témoignage.
Mais c'est essentiel aussi. Puis il y a aussi une question d'éducation. Quand je parle de la terre, c'est quand même la base. Et j'allais faire encore un gros monologue, mais je vais m'arrêter là. Mais c'est comme on critique les peuples primaires, quoi. Au bout d'un moment, qui sont les plus débiles? C'est nous ou c'est ceux qui vivent dans la terre, enfin qui vivent de la terre et qui vivent. Au bout d'un moment, faut remettre un petit peu les choses à leur place. On s'est enflammé dans le milieu du rugby et c'est le sociétal, mais au bout d'un moment, l'éducation est essentielle. Tu veux être agriculteur, je sais pas si je suis très clair, mais c'est cette volonté d'être ancré dans la terre, quoi. C'est la réalité en fait.
Non, puis je pense que ouais, puis après aujourd'hui, pour en revenir au tout ça, c'est que ben, tu lis les journaux ou internet, tu vas sur Facebook, tu vois, ah, lui il a signé à temps là-bas, enfin. Tu te rêves des salaires qui aujourd'hui, tu as les top joueurs, oui, mais après, tu as une partie où on est très bien payé, loin de là, je ne vais pas me plaindre d'attention. Hein. Mais c'est pas pareil. Quoi. En France, on va dire qu'il y a 30 joueurs, il y en a 4-5 par club qui ont des salaires mirobolants, et après, le reste, mais c'est plus dans le basique. Après, si tu es malin, tu prépares bien ton avenir. Ça te met à temps à 30 ans. Si j'avais fait agriculteur, j'aurais jamais gagné autant d'argent, je le sais bien. Mais c'est ça qu'il faut savoir pour chacun à son échelle, préparer son truc. Et aussi, moi, je pense que c'est important, je le réfléchis souvent, c'est savoir combien je m'accorde pour vivre après ma carrière. Je me dis, voilà, pour vivre bien, il me faut combien par mois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est des choses à quoi je réfléchis. Parce que ce n'est pas arrivé devant le fait accompli quand mon contrat va s'arrêter et que je vais me dire, bon, mais j'arrête, alors je vais avoir le chômage pendant un an. Et après, ben, il va falloir se mettre à faire quelque chose, hein, sinon. Puis parce que aussi, il y a l'aspect mental, mais il y a l'aspect économique, il y a l'aspect vie de famille, ça peut tout faire exploser, il faut faire attention. Donc pour moi, c'est vraiment important.
Je vous propose, messieurs, qu'on parle un peu rugby quand même, parce que sur une émission consacrée au rugby. Ce serait bien qu'on parle un peu de jeu.
On va le jeu un est peu un prétexte pour parler des hommes, Arnaud. Ça, c'est cadeau.
Vrai, c'est vrai.
C'est cadeau.
Et c'est pour ça qu'on est venu vers Adrien, justement, pour évoquer cette reconversion qui n'est pas atypique, puisque tu l'as cité, il y avait également Dessy Trémoulière, qui a quand même été élue, entre parenthèses, meilleure joueuse du monde et qui, ouais, parallèlement à sa carrière, dirige la ferme familiale avec son papa. On parle un peu de l'ASM, messieurs. Une ASM qui, on dit que c'est peut-être une année de transition, l'arrivée de John O'Gibbs, le départ de Franck Azéma. Tu avais connu un management anglo-saxon avec Jeremy Davidson à Aurillac, que tu avais suivi d'ailleurs à Bordeaux. Est-ce qu'il y a des vraies différences dans le management que tu as connu avec Franck Azéma et dans le management aujourd'hui de John O'Gibbs à l'ASM Clermont-Auvergne?
Des vraies différences, oui et non. Je pense qu'il y a cet aspect anglo-saxon qui est un petit peu différent, notamment sur la communication avec les joueurs, parce que Jono, c'est un mec très sympa, c'est vraiment bien. Mais c'est sûr que c'est un mode de management un petit peu différent. Après, une vraie différence, je sais pas.
Hein, concrètement, c'est quoi la un petit peu différent?
Je sais pas. Peut-être qu'il y a plus l'aspect distance avec les joueurs, un peu moins, peut-être un peu moins. Enfin, moi, j'ai pas connu. Enfin, je ne veux pas dire que Franck Azéma, c'était mon pote à l'entraînement. Non, je ne dis pas ça. Mais en vrai, non, peut-être un peu l'aspect plus de distance entre certains. Une certaine, comment on va dire, distance. Non, mais après, non, je trouve pas qu'il y ait une énorme différence. Et, juste, je trouve, voilà, il a amené un souffle nouveau aussi au club. C'est important parce que, bon, on s'est soufflé un peu l'année dernière. Bon, on ne fait pas un très bon début de saison, mais.
Justement, on va en parler.
Donc, voilà, je. Mais ouais, il y a forcément des différences parce que je pense qu'il y a aussi une éducation du rugby qui est différente. Et dans le terme, je veux dire, Jono, il est néo-zélandais. Bon, il a vécu beaucoup de clubs en France et autre part. Donc, mais non, c'est. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire là-dessus, quoi.
Bon, ok, alors on passe à la question suivante. Non, mais au moins, c'est clair, c'est mieux. On parle d'année de transition du côté de Clermont parce qu'évidemment, alors, on revient sur l'arrivée de Jono Gibbs. Mais voilà, il y a un renouvellement petit à petit de l'effectif qui se fait. Est-ce que c'est ce qu'explique justement les quelques balbutiements, même si l'ASM reste sur une très belle victoire dimanche soir face au Racing 92 est-ce que voilà, on a le sentiment que il y a une phase de reconstruction qui est en train de s'opérer à l'ASM? C'est ton sentiment, Adrien?
Une phase de reconstruction, je sais pas, parce que aujourd'hui l'effectif a pas non plus énormément changé par rapport aux années avant. Maintenant, on est un peu dans une phase de transition, c'est sûr, parce que y a des mecs qui étaient des cadres de l'équipe qui sont un peu plus vieillissants, il y a des jeunes qui émergent. On va dire que le groupe n'est pas huilé comme peut-être il y a 5-6 ans ou tout ça. Mais on ne se dit pas, on est dans une année de transition cette année, on va faire ce qu'on peut. On ne se dit pas ça. Hein, on a fait un début de saison qui est assez moyen. Maintenant, ça va un petit peu mieux. Là, on a gagné La Rochelle. On a fait un match cohérent à Toulouse, mais on n'a pas pris de points. Et on a battu hier soir le Racing, donc c'est bien. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de questions à se poser, à se dire on est transition, pas transition, fin du cycle, pas fin du cycle. Il faut y aller à fond et voir ce que ça donne, quoi. Parce qu'on a quand même des armes pour exister dans ce championnat.
Tu as débuté la saison en tant que titulaire, tu le disais tout à l'heure, deux matchs. Bon, malheureusement, c'était pas bien passé collectivement, puisque c'est deux défaites pour débuter. Tu as disparu un petit peu du groupe, tu le disais. Comment tu le vis et comment t'expliques ce choix?
Comment j'explique ce choix? C'est le coach qui choisit, donc ça l'expliquer, il faut lui poser la question à lui. Mais après, j'ai connu la saison, j'ai fait deux premiers matchs titulaires et depuis je ne suis pas dans le groupe. Maintenant, on est trois au poste, il y a des bons joueurs. C'est la concurrence, moi je le vis, je suis déçu forcément parce que quand on ne joue pas, je suis un compétiteur et je ne suis pas là pour regarder les autres jouer, donc j'ai envie de jouer et c'est comme ça. Mais il faut l'accepter et travailler et ça va revenir.
Raph, tu le vivais mal quand tu n'étais pas dans le groupe, toi?
Ah putain, mais plus j'avançais, moins je l'étais. Mais je t'avais déjà dit, j'étais toujours titulaire en troisième mi-temps. Moi, de toute façon, là ça changeait pas. Ben oui, bien sûr que tu es frustré parce que déjà, t'as tes potes parce que c'est cet état d'esprit, parce que comme le dit Adrien, t'es un compétiteur. Et puis derrière, quand je dis la gamelle, elle est bonne, c'est les 80 minutes, quoi. C'est ce que tu vis sur le terrain, c'est quand tu rentres dans le vestiaire, t'es pas en costard, quoi. Et t'es au moins même le maillot d'échauffement ou d'entraînement, tu l'as sur les épaules, quoi. Et Puis après, on connaît mon histoire, j'ai pas joué les finales du club, donc c'est très difficile et très frustrant de ne pas appartenir au groupe, surtout quand ça va mal. En fait, quand ça va bien, c'est hyper frustrant. Oui, il y a les titres, mais quand ça va mal, tu as aussi envie de... Tu as une part de sauveur en toi, on a tous ça en nous, les mecs, les rugbyman, on a tous envie de, d'apporter à l'équipe, de sauver, tu vois, de faire le mettre en plus, le truc. Alors quand tu es en costard avec les mocassins dans les tribunes, c'est sûr que ça fait, c'est sûr que ça fait chier. Bien sûr que je le vivais mal. Et après, le train passe, hein, mais bon, je pense que la saison est longue. À Clermont, voilà, il y a un renouvellement de management. On sort quand même aussi d'un Covid. Il y a le retour du public. Il faut se réadapter aussi à pas mal de d'équipes aussi qui ont évolué. Hein. C'est Penaud qui le disait. Hein. Il dit aujourd'hui, le top 14, c'est pas comme il y a 5-6 ans. Hein. Aujourd'hui, tout le monde est armé pour jouer le haut de tableau. Enfin, tout le monde, je me comprends. Mais tu as quand même 10 équipes qui sont armées. Il faut pas l'oublier. Alors qu'avant, oui, tu avais Clermont, tu avais Toulouse, tu avais le Stade Français, mais tu as le Racing qui est arrivé, tu as La Rochelle maintenant, tu as Bordeaux aussi, tu as tout ça. Donc c'est difficile aujourd'hui d'exister.
Ouais, juste pour conclure après, Adrien, parce qu'on a un petit peu débordé. T'as 30 ans, ta projection rugbystique, elle te porte jusqu'où aujourd'hui et ton papa, tu vas aller le soulager dans combien de temps, en gros?
Je sais pas, j'espère qu'il va pas écouter ça, mais non, là, j'ai encore 2 ans de contrat à Clermont, enfin, cette saison plus une autre, et après, j'aimerais bien retrouver un autre contrat, peut-être à Clermont ou peut-être autre part, on verra. J'aimerais bien jouer encore, 2 ans de plus après ce contrat-là, et je me fixe pas de limite, en fait, je me dis juste quel est mon état de santé déjà au niveau, mentalement, est-ce que j'aurai encore de la fraîcheur, est-ce que j'aurai encore envie de faire des saisons longues, de vouloir tout ça, je me suis dit, si je joue jusqu'à 35 ans, ça serait top, mais après, il y a plein de paramètres à mettre en compte, si tu te fais mal, et puis après, je veux pas faire la saison de trop aussi, et je supporterai pas de plus jouer du tout dans un club, ça va me... donc je veux absolument finir fort, donc... Je ne sais pas trop, mais j'espère encore 3-4 ans, 4 ans, ça serait bien.
Alors, on voit Clermont dans 2 ans. Et après, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'un petit gars débarquerait au Stade Français? Pas le Stade Français qui ne fait pas trop rêver en ce moment, on le voit. Hein, mais est-ce que la capitale peut faire rêver aussi un petit gamin du cru ou,
Ah oui, ou complètement. Peut...
Ouais, d'accord.
Ah ouais, parce que moi, une vie... Pourtant, ce n'est pas Paris, c'est la ville qui m'attire à la fois et me fait peur. Mais non, j'aime bien. Bon, pourquoi pas? Moi, je ferme la porte à personne. Et surtout, je trouve que la vie à Paris, pour un mec de la campagne comme moi, vraiment, parce que bon, j'habite dans un endroit et bon, même ma femme, elle n'aime pas trop, donc c'est compliqué. Mais je trouve qu'il faut... c'est important de s'ouvrir et je trouve que vivre à Paris, c'est quand même top, quoi. Il y a plein de choses à faire et ça vaut le coup, quoi.
Ben, si tu viens, j'ai les clés du camion, c'est sûr.
pour un dernier contrat, avant de retourner t'occuper de la ferme familiale, ça peut être intéressant.
Et je ne parle pas des clés du camion du Stade Français, je ne les ai pas du tout. Ah mais non. Tout ce qu'il y a à côté, ouais. Il y a moyen que je te fasse balader dans des endroits un peu sympas. Voilà.
J'en doute pas.
Bon, prochain rendez-vous de la SM Clermont-Auvergne, ce sera dimanche soir, hein, 21h.
Au Stade Français, d'ailleurs.
Justement, au Stade Français, à Jean-Bouin, un match à la vie à la mort, notamment pour les soldats roses, hein, qui sont ouais. Derniers, lanterne rouge avec une seule victoire. On te souhaite évidemment d'être sur la pelouse ou au moins dans les 23, Adrien. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, pour ce moment d'échange, pour ce moment riche, un moment que j'invite évidemment tous les jeunes joueurs à écouter parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir l'avis d'un joueur de 30 ans qui anticipe son après-carrière, n'est-ce pas, Raph?
Absolument. Non, j'étais ravi, Adrien. Voilà, moi, je te connaissais sur le terrain et Arnaud m'a fait découvrir... l'homme, donc je suis ravi de t'avoir rencontré. J'espère pouvoir te croiser et te serrer la main, parce que je serai au stade dimanche soir dans les travées du stade juste pour te remercier physiquement. Et puis, on va te souhaiter en tout cas une belle saison et pourquoi pas finir au Stade Français. Mais au-delà de ça, tu parlais justement de ce que je retiens aussi, c'est la peur aussi de dire, voilà, je veux pas donner de leçons, mais je pense que ton discours est important aujourd'hui pour les jeunes. Donc bien sûr que moi, j'ai les réseaux sociaux, donc je les partagerai sur les réseaux et que voilà, que ce soit entendu par le plus grand nombre, parce que la prévention aujourd'hui est importante dans notre sport. Voilà, en tout cas, merci à toi.
Merci à vous, vraiment, c'était vraiment sympa. Et puis, bonne continuation et puis au plaisir de se voir dimanche, j'espère. Et puis, on verra bien pour la suite.
Je te le souhaite, monsieur, à très bientôt.
Poulard Affût, c'est terminé. On se retrouve même endroit, même heure. La semaine prochaine, on fait un petit teasing avec Pierre-Henri Broncan, le manager de CAS, pour revenir encore une fois sur un parcours atypique, un coach qui n'est pas comme les autres, un parcours atypique, je l'ai dit, et une construction personnelle qui l'a amené justement à diriger un des plus grands clubs français. Merci messieurs, à très vite. Poulard Affût, c'est la semaine prochaine, même endroit, même heure.
Merci Arnaud, salut.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.